France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Nous accueillons aujourd'hui, grâce aux archives, le pianiste et compositeur Jean Viennaire. Formidable témoin et acteur majeur de la création musicale du début du XXe siècle, Jean Viennaire nous fait partager ses souvenirs dans l'émission de Micheline Banzet, « Trois jours avec ». Dans le premier volet que vous allez suivre aujourd'hui, Jean Viennaire raconte les années qui précèdent la guerre de 14 et évoque sa rencontre avec Gabriel Fauré, la découverte de la musique de Debussy, le début de son amitié avec Darius Milhaud et aussi Igor Stravinsky qu'il considère comme le Jean-Sébastien du XXe siècle. Et rien que pour nous, Jean Viennaire se met au piano et improvise dans les studios de la radio. Nous étions le 26 septembre 1957.
Jean Viennaire, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté de venir passer un moment avec les auditeurs de la modulation de fréquence. Nos amis qui, comme vous savez, s'intéressent beaucoup à la musique et sont certainement très heureux de vous avoir avec eux un moment ce soir. Et puis ensuite, avant de vous laisser la parole, je voudrais qu'ils sachent dans quel embarras je me suis trouvée la première fois que je vous ai rencontré devant la richesse de votre carrière et de votre vie. Quand je me suis retrouvée chez moi quelques heures plus tard et que j'ai ouvert les volumes que vous aviez bien voulu me confier, où il y avait toutes les coupures de journaux qui retracent vos concerts et seulement une partie de votre carrière, je me suis dit, mais maintenant, comment allons-nous faire pour résumer tout cela en 3 heures et donner une idée de ce que vous avez pu faire pour la musique en seulement 3 émissions? Enfin, malheureusement, c'est toujours pareil, on est obligé de faire des sacrifices et aujourd'hui, nous ne connaîtrons qu'une partie de votre œuvre. J'espère qu'un jour, vous voudrez bien rédiger tout ce que vous m'avez raconté et bien d'autres choses encore pour nous faire partager les souvenirs que vous avez et que malheureusement nous ne connaissons pas tous. Mais enfin, puisqu'il faut commencer par quelque chose, ce soir je voudrais d'abord vous demander quelles ont été vos premières impressions musicales et quels sont les premiers souvenirs que vous avez.
Le premier grand souvenir, c'est probablement Gabriel Fauré. Gabriel Fauré qui avait les ongles et la moustache couleur citron, parce qu'il fumait exactement sans arrêt depuis le matin jusqu'au soir. Et alors il m'avait fait peur un petit peu la première fois à cause de cette couleur jaune, de cette moustache blanche et de ses ongles. Et de tout autour de lui était plein de nicotine.
Vous l'aviez rencontré à Paris?
Oui, je l'avais rencontré chez des amis qui avaient organisé cette petite rencontre. Mes parents leur avaient raconté que j'étais assez doué pour la musique, et alors on avait fait cette petite rencontre, et alors Fauré s'était beaucoup, beaucoup intéressé à moi, et j'allais très souvent chez lui, et nous faisions des petites séances d'improvisation qui étaient vraiment très, très, très amusantes. Il me donnait des petits thèmes, et alors je brodais là-dessus et il me jouait des choses qu'il venait d'écrire. Enfin, c'était très épatant et c'était vraiment la musique même et un personnage extrêmement, extrêmement noble et tiré à un exemplaire, comme tous les grands musiciens.
Et oui, et est-ce qu'on peut vous demander un peu comment était le cadre à cette époque? Est-ce qu'il y avait déjà l'électricité, le chauffage, ou bien est-ce qu'on en était encore à la lampe à pétrole,
un bon feu dans la cheminée? Je dois dire que tout ça, je l'ai un petit peu oublié. Il est certain que c'était certainement encore le genre lampe à pétrole, la mèche qu'il fallait remonter ou baisser, etc. Ça, je ne peux pas vous donner des détails très précis là-dessus, parce que la mémoire me fait un peu défaut.
Enfin, c'était une atmosphère assez confortable, probablement assez calfeutrée et très intime, mais ça devait être d'autant plus agréable quand vous vous trouviez seul avec Fauré et qu'il vous demandait
de... C'était très merveilleux, je n'ai absolument pas oublié l'atmosphère de ce salon.
Eh bien, c'est peut-être indiscret, mais est-ce que nous aurions pu vous demander si vous auriez pu improviser comme vous le faisiez auprès de Fauré ce soir pour les auditeurs de la modulation de fréquence?
Mais non, c'est pas du tout indiscret. La seule chose que je puis faire aujourd'hui, c'est d'improviser, si vous voulez, un petit temps en pensant à Gabriel Fauré.
Ben, je vous remercie beaucoup. Et comme nous avons un piano ici, si vous voulez bien vous mettre au piano, nous serons très heureux d'essayer d'imaginer comment vous vous trouviez auprès de Fauré il y a bien des années, malheureusement.
Mmh.
Jean Viennaire, je vous remercie d'avoir bien voulu improviser en pensant à Gabriel Fauré, et autant dans le style de Fauré, car enfin, toutes ces modulations, toutes ces fins de phrases, c'est tout à fait la musique de Fauré telle que nous la connaissons, et telle que vous la connaissiez sûrement encore bien mieux que nous. Alors, vous nous disiez que vous aviez travaillé avec Fauré, que vous l'aviez beaucoup vu, et à ce moment-là, je pense que vous alliez déjà au concert aussi.
Oui, mes parents étaient très très gentils pour moi et ils m'avaient abonné pendant des années. J'ai été tous les samedis matins à la répétition générale des concerts Colonne, où j'ai vu encore Monsieur Colonne, puis Gabriel Pierné.
Et qu'est-ce qu'on jouait à ce moment-là, à ces concerts-là? C'était le grand moment de Saint-Saëns, de Vincent d'Indy, de Franck?
Oui, c'est ça. On entendait beaucoup de Wagner, beaucoup de Franck. Beaucoup de Saint-Saëns, naturellement la symphonie de Beethoven, qui était déjà à ce moment-là la musique qui fait recette. Enfin, c'est une admirable musique, bien sûr, mais enfin, qui a toujours fait recette, en tout cas depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et puis alors, ce qui me passionnait, parce que j'étais jeune et parce que tout de même, quand on est jeune, on est plus sensible aux trouvailles, aux nouveautés, c'est qu'alors on donnait les Debussy et les Ravel presque, enfin, à peine sortis de chez Ravel ou de chez Debussy. Enfin, on a entendu vraiment presque les premières auditions des grandes choses de Debussy, en tout cas les grandes choses de Ravel.
Et alors, quel était l'accueil du public qui, à ce moment-là, je pense, aimait plutôt Wagner? Alors, pour eux, c'était une
révolution.
Ah oui,
il y avait toute une partie du public qui n'admettait absolument pas ça. Enfin, c'était à cette époque-là, je me rappelle, mes parents étaient revenus un jour d'une des premières représentations de Péléas, où on s'était beaucoup bagarré, etc. Et les gens disaient que c'était stupide, impossible, que c'était pas de la musique, en tout cas, que le sujet n'était pas un sujet noble. Enfin, vous savez, la musique était encore, comment dirais-je, habillée de cette espèce de majesté inhumaine que Dieu merci, elle a quittée, enfin en tout cas en partie.
Et vous me disiez, je crois, il y a quelques jours, que parmi les œuvres de Debussy que vous avez entendues à cette époque, l'une de celles qui vous avait le plus frappé, c'était les images.
Ah oui, c'était, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu Fête et nuages, enfin j'ai pensé que c'était, à juste titre d'ailleurs, un nouveau terrain, un nouveau pays, n'est-ce pas, de la musique, quelque chose d'un nouveau climat, enfin, que c'était la musique entrait dans une nouvelle phase, et ça, je dois dire que ça m'a frappé pour le restant de mes jours. Et alors, j'étais beaucoup plus sensible à cette époque à Debussy qu'à Ravel.
Thank you.
Jean Vienner, vous nous disiez que quand vous avez entendu pour la première fois ces images de Debussy, cela vous a paru absolument extraordinaire et nouveau, et que par contre vous n'aimiez pas énormément Ravel à ce moment-là, et pourquoi ?
Eh bien, je ne sais pas, nous étions un certain nombre, et mon meilleur ami, qui est Darius Milhaud, était de ce nombre, qui, on ne peut pas expliquer pourquoi, nous avions l'impression que Ravel était un dérivé de Debussy. Et c'est seulement beaucoup plus tard qu'on a compris que pas du tout, enfin, que Ravel était un énorme musicien, ce qui n'empêche pas que Debussy était un gigantesque musicien, mais qui avait en somme, à part, si vous voulez, qui se fournissait chez les mêmes marchands de matières premières, si vous voulez, parce qu'ils étaient un tout petit peu du même temps, encore que Ravel était tout de même beaucoup, beaucoup plus jeune que Debussy. Mais enfin, ce sont des musiciens énormes l'un et l'autre, et au fond très différents. Et alors nous avions une telle passion pour l'homme qu'était Debussy, qui nous paraissait un demi-dieu, sinon un dieu entier, que nous avions un peu l'impression que Ravel allait dans les jardins de Debussy et lui chipait des trucs. Alors que maintenant, nous avons l'impression, moi en tous les cas, je ne parle pas pour mes amis, mais j'ai l'impression que Ravel est un musicien qui ne doit rien à personne et que pour ma part, j'idolâtre actuellement.
Vous me disiez hier que vous aviez entendu, je crois, à ce moment-là, les histoires naturelles.
Ah oui, j'ai entendu les histoires naturelles chantées par une admirable personne qui est toujours une admirable personne, qui s'appelle Jeanne Bathory. Et je les ai entendues non seulement par Jeanne Bathory, mais je les ai entendues chez une autre amie qui était Missia Certes, qui était la grande inspiratrice, si je peux dire, et une amie très intime de Maurice Ravel. Et je dois dire que alors ça m'a estomaqué. Je pense que c'est une des choses qui ont commencé à me faire toucher du doigt l'erreur que j'avais commise en pensant qu'il y avait une espèce de petite malhonnêteté, si j'ose dire, de Ravel vis-à-vis de Debussy. Enfin, les histoires naturelles, c'est quelque chose qui ne sont absolument pas debussistes et qui sont une œuvre d'un esprit, d'une intelligence foudroyante. Je comprends même pas qu'on ne les entende pas davantage.
Car on les connaît très peu, finalement.
Très peu.
Devait être pour hier, en habit de gala, il était prêt. Il n'attendait que sa fiancée, elle n'est pas venue. Elle ne peut tarder. Glorieux, il se promène avec une allure de prince indien et porte sur lui les riches présents d'usage. L'amour ravive l'éclat de ses couleurs et son aigrette tremble comme une lyre. Fiancée n'arrive pas. Il monte au haut du toit et regarde du côté du soleil. Il jette son cri diabolique. Léon, Léon. C'est ainsi qu'il appelle sa fiancée. Il ne voit rien venir et personne ne répond. Les volailles habituées ne lèvent même point la tête. elles sont lasses de l'admirer. Il redescend dans la cour, si sûr d'être beau, qu'il est incapable de rancune. Son mariage sera pour demain. Sachant que faire du reste de la journée, il se dirige vers le perron. Il gravit les marches comme des marches de temple, d'un pas officiel. Il relève sa robe à queue, toute lourde des yeux qui n'ont pu se détacher d'elle. Il répète encore une fois la cérémonie. L'insecte nègre revient de promenade et répare avec soin le désordre de son domaine. D'abord, il ratisse ses étroites allées de sable. Il fait du brin de scie qu'il écarte au seuil de sa retraite. Il lime la racine de cette grande herbe propre à le harceler. Il se repose. Puis il remonte sa minuscule montre. A-t-il fini? Est-elle cassée? Il se repose encore un peu. Il rentre chez lui et ferme sa porte. Longtemps, il tourne sa clé dans la serrure délicate. Et il écoute, point d'alarme au dehors. Mais il ne se trouve pas en sûreté. Et comme par une chaînette dont la poule y grince, il descend jusqu'au fond de la terre. On n'entend plus rien. Dans la campagne muette, les peupliers se dressent comme des doigts en l'air. lumière et désigne la lune.
Jean Vienner, vous nous disiez qu'au fond, cette œuvre de Ravel, Les histoires naturelles, dont nous avons entendu un fragment, au fond, ça avait été pour vous un tournant dans votre appréciation de la musique de Ravel, et qu'à ce moment-là, grâce aux histoires naturelles, vous aviez davantage apprécié la musique de Ravel.
Absolument.
Et je crois que Millot a eu à peu près la même évolution. Millot n'aimait pas énormément Ravel au début, et maintenant, il l'aime bien davantage.
Oh, certainement. Encore que je ne puis pas prendre la responsabilité de ce que Darius dirait de Ravel, mais enfin, je connais suffisamment pour savoir que, enfin, il a aussi beaucoup modifié son jugement.
Votre première rencontre avec Millot se situe, je crois, à Aix, quand vous étiez encore très jeune.
C'est ça. Ça se situe à Aix aux environs de 1909, par là, 8 ou 9, je ne peux pas exactement me rappeler. Et j'étais dans le Midi à ce moment-là et j'ai une cousine qui m'a proposé d'aller voir un jeune musicien dont elle me disait qu'il paraît qu'il était un petit peu foufou, mais enfin, elle était assez intéressée de savoir ce que j'en pensais. Et alors, j'ai été chez les parents de Darius dans leur maison de campagne à côté d'Aix, à l'Enclos, et j'ai tout de suite eu une espèce d'emballement pour Darius qui était déjà un gros garçon merveilleux. Il était, tu me rappelles toujours, habillé tout en blanc, et il m'a ouvert les volets de la pièce où il travaillait, où on faisait le noir parce qu'il faisait très chaud, et il a ouvert ses volets, vivement on les a refermés, je suis resté plusieurs heures avec lui. Il m'a chanté des mélodies qu'il venait de faire, moi j'ai essayé de lui en chantonner quelques-unes, et nous avons tout de suite sympathisé. Après ça, il est venu à Paris. Nous avons travaillé ensemble chez Gédalge, tout d'abord. Puis s'est installé rue Gaillard, qui a été enfin une grande époque de sa vie. Et on a vraiment là rencontré tout le monde. Et c'est là que j'ai connu Honegger, qui devait ensuite nous rejoindre à la classe de Gédalge. Jacques Ibert et beaucoup d'autres musiciens qui étaient de charmants jeunes gens, assez timides.
Mais ils étaient pourtant, il me semble en tout cas pour Millot, très aventurés, car c'est à peu près à ce moment-là qu'il écrivait des œuvres comme Les Études, qui restent encore très avant-garde actuellement,
non ? Ah, je pense bien. C'est une des choses, à mon sens, les plus vigoureuses et les plus nouvelles pour l'époque. Enfin.
Vous les avez vues composer, ces études qui sont, je dois dire tout de suite, très peu connues, car je crois que parmi nos auditeurs, je ne sais pas si beaucoup d'entre eux connaissent les études de Millot. Et je crois, je ne voudrais pas dire une erreur, mais il me semble que Millot m'a dit que c'est des études qu'il avait faites surtout basées sur la polytonalité.
C'est ça.
Les superpositions de tons différents, l'orchestre utilisant une tonalité, c'est le piano une autre.
C'est là qu'est la grande difficulté, si je peux dire.
C'est pas en quoi ce sont des études.
C'est ça.
Et est-ce qu'à ce moment-là, quand vous les avez jouées pour la première fois, le fait que ce soit polytonal posait des problèmes, vous semblait très difficile à interpréter, le fait que l'orchestre ne jouait pas en somme dans le même ton que vous?
Je ne suis pas absolument sûr, mais vous savez, à cette époque, la polytonalité était quand même quelque chose qui faisait grimacer 9 personnes sur 10.
Naturellement.
Enfin, c'était à peu près général, il fallait des jeunes fous comme nous autres pour penser que non seulement c'était audible, mais que c'était même très intéressant, que c'était très passionnant.
Et oui, mais peut-être que nous pourrions en écouter une, si ça ne vous ennuie pas. Elles ont été enregistrées,
bien.
Et nous pourrions écouter une de ces études en somme polytonale, malheureusement pas jouée par vous, puisque nous n'avons pas l'enregistrement que vous auriez pu faire.
Non, je ne l'ai jamais fait.
Vous ne l'avez jamais fait. Eh bien, voici une de ces études de Millot.
Thank you.
Vienner, vous nous disiez que avant la guerre de 14, vous aviez rencontré Millot, vous aviez déjà lié une solide amitié avec lui, vous aviez eu l'occasion de jouer ses œuvres, entre autres ses études. Nous voulons entendre une des études basées sur la polytonalité et qui était très révolutionnaire à cette époque, qui sont encore très intéressantes aujourd'hui. Mais est-ce que vous pourriez nous remettre un petit peu dans l'atmosphère qu'il y avait à Paris avant la guerre? C'était les premiers ballets de Diaghilev, je pense, à ce moment-là.
Oui, c'était les premiers ballets de Diaghilev, c'est-à-dire qu'on était mis tout d'un coup en présence d'un art d'une richesse extraordinaire, aussi bien visuellement qu'auditivement, Diaghilev a apporté enfin quelque chose de tout à fait énorme. On ne le dira jamais assez à cette époque-là. Ça a été le début de ce feu d'artifice qui a été vraiment, qui a été alors l'après-guerre de 14, un feu d'artifice inouï.
Ben, ça sera le sujet demain de notre entretien, mais dès ce soir, je voudrais que vous nous disiez un mot du coup de poing musical vraiment qu'a dû être l'apparition de Stravinsky.
Ah oui, alors ça, Stravinsky, ça a été quelque chose d'autant plus terrible que c'est vraiment, enfin, pour moi, le Jean-Sébastien de notre siècle. C'est tout de même le grand, grand, grand maître de la musique. D'abord parce qu'il a ceci de tout à fait admirable, c'est que quand il avait expérimenté une formule, disons par exemple la formule du sacre, qui à cette époque a fait... enfin, un malheur, comme disent aussi les jeunes, un véritable malheur, n'est-ce pas ? Eh bien, une fois que tout le monde a eu reconnu que c'était une musique d'une puissance absolument titanesque et fabriquée avec la même perfection que fabriquait Jean-Sébastien Bach ou Mozart, une fois que ça a été terminé, il est passé à autre chose, n'est-ce pas ? Et ça, toute sa vie, ça a été comme ça. Il y a eu des manières plus ou moins agréables, plus ou moins douces. Il a eu des moments d'une dureté terrible. Mais le jour où on fera une véritable étude sur Stravinsky, je ne sais pas si on a déjà fait, moi je n'ai malheureusement pas beaucoup le temps de lire, mais enfin je pense qu'on s'apercevra qu'il y a 2, 4, 6, 8, 10 manières de Stravinsky qui n'ont presque pas l'air, en tout cas pour... N'est-ce pas, les différentes manières entre elles n'ont, en tout cas pour l'auditeur moyen, je pense, aucun rapport.
Je crois que c'est absolument exact ce que vous dites. Et on m'a dit d'ailleurs, je ne sais pas si c'est exact, que Stravinsky, encore actuellement, malgré tout le passé qu'il a, l'expérience extraordinaire, la technique, enfin, malgré ce qui est déjà actuellement son œuvre, se penchait encore sur le dodécaphonisme, avait eu la curiosité maintenant d'essayer d'écrire les œuvres selon la technique dodécaphonique.
Je pense bien, il y a à mon sens deux exemples uniques dans notre temps. De cette espèce de surhomme, enfin, si je peux employer cette vieille expression, c'est Picasso et Stravinsky.
J'allais vous le dire, justement, est-ce qu'on ne peut pas tracer un parallèle entre Picasso et Stravinsky, si du fait qu'ils se renouvellent tous les deux incessamment ?
Absolument, et qu'ils ont toujours la même jeunesse, toujours la même sève, toujours la même puissance. Ça, c'est très prodigieux, ça, je ne crois pas l'avoir rencontré chez aucun autre être humain.
Eh bien, avant de vous quitter, il va falloir quand même que nous écoutions un fragment d'une œuvre de Stravinsky. Après tout ce que vous avez dit, c'est très difficile de choisir, parce que quelle manière, la dernière, une œuvre de jeunesse, enfin on ne sait plus trop. Puisque nous nous arrêtons ce soir, en principe, avant la guerre de 14, c'est une division un peu arbitraire dans votre carrière, mais il en faut bien quand même. Nous aurions peut-être pu choisir soit le Sacre, soit Petrouchka, soit l'Oiseau de feu, enfin une des œuvres à peu près de cette époque.
Bien sûr.
Je crois que vous m'aviez dit que vous aviez une petite préférence pour Petrouchka.
Ah oui, c'est merveilleux.
Eh bien, nous pourrions peut-être terminer cette première heure passée avec les auditeurs de la modulation de fréquence et avec vous, Jean Viennaire, en écoutant un fragment de Petrouchka de Stravinsky.
Un extrait de Petrouchka d'Igor Stravinsky, Pierre Boulez dirige l'Orchestre Philharmonique de New York. Ainsi s'achève le premier entretien de Jean Vienner, réalisé par Micheline Banzet en 1957. Nous le retrouverons demain pour la suite de ses souvenirs. Cette archive est disponible au podcast ou à la réécoute sur le site francemusique.fr à la page des Trésors de France Musique. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation, avec Adelino Mello pour la prise de son, en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.